Et on poursuit ses réflexions sur le développement collectif, comme on le fait chaque deux semaines depuis le début de la saison avec Madeleine Lefebvre, professeure à l'UQAT. Madeleine, bonjour.
Bonjour Sébastien.
On a défini ce qu'était une collectivité. Peut-être que les gens ont réfléchi à la façon dont ils s'identifiaient.
Leur sentiment d'appartenance.
Oui, peut-être. Et là, on s'intéresse à un autre concept cette semaine, c'est la marginalité.
Oui, parce que dans le fond, la semaine dernière, on essayait de voir, OK, en développement collectif, on agit où? Mm-hmm. C'est qui, c'est quoi notre collectivité, c'est qui notre gang? Mais là, on se pose la question d'une autre façon. On agit auprès de qui? Parce que si on se rappelle, l'objectif du développement collectif, c'est faire des projets, mettre en place des mesures collectivement pour que tout le monde soit le plus épanoui possible.
Mm-hmm.
Mais ça amène quand même une importante question, Sébastien. Et c'est, mais qu'est-ce qu'être épanoui?
oui, effectivement.
Et puis, tu sais, ça a l'air banal comme ça, mais en fait, c'est super complexe parce que ça dépend des cultures, ça dépend de nos valeurs et ça évolue dans le temps, ça.
Puis c'est quoi aussi une collectivité épanouie versus une personne épanouie?
Parce que
moi, je peux être épanoui dans ma collectivité, mais ça ne veut pas dire que
ta collectivité peut être mal en point et toi, tu vas super bien ou vice-versa. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est toutes ces questions-là, dans le fond. Puis comme je disais, les réponses sont pas fixes, les réponses évoluent. Je peux dire que, dans le fond, l'idée a longtemps été en développement collectif jusqu'à tout récemment, puis ça l'est encore à certains égards aussi, d'essayer d'inclure les gens dans le groupe.
Mm-hmm.
Parce qu'on, puis c'est pas fou, là, on est des êtres sociaux, donc on se dit, si les gens sont inclus dans le groupe, dans la communauté, dans la société, bien, ils ont plus de chances de s'épanouir. C'est une belle pensée, sauf que ça a aussi eu des dérives, cette façon de penser-là. Puis on s'en est rendu compte, je dirais, de plus en plus, là, depuis 30, 40 ans. T'sais, je vais te donner des exemples très concrets. Si on parle de l'homosexualité, par exemple.
Mm-hmm.
Être homosexuel, statistiquement parlant, il y a moins d'homosexuels que d'hétérosexuels. Donc, si, tu sais, longtemps, ça a été l'idée qu'il fallait rentrer les gens dans la statistique majoritaire, dans mm-hmm. le fond. Donc, être homosexuel, ben, il fallait corriger ça. Tu sais, ça a longtemps été ça, puis ça l'est encore.
Oui, l'espèce de débat normal versus anormal, peu importe la situation.
Exactement.
Là.
Fait que ça, c'est un exemple classique, parce que nous, on a évolué au Québec, au Canada, Dieu merci, par rapport à ça, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Il y a encore des places où c'est même criminel, mm-hmm. tu sais. Fait que c'est un des exemples, mais on pourrait multiplier ces exemples-là, où tout ce qui est, dans le fond, statistiquement parlant, moins... je ne veux pas dire moins représenté, mais là, il faudrait comme le corriger pour rentrer dans le groupe. Mais ça, tu sais, ça donne lieu à toutes sortes de dérives parce que dans le fond, on s'est rendu compte, comme je dis, on a évolué, on s'est rendu compte avec la multiplication des informations, Internet a contribué à ça, mais aussi, je dirais pas juste moi, là, on le voit dans les études, dans les livres, que l'immigration, le fait qu'on s'ouvre de plus en plus à une immigration qui est aussi régionalisée, fait que les gens sont moins juste entre eux un groupe plus ou moins similaire. T'sais, on est mm-hmm. confronté à plus de différences. Bien ça remet en question notre perception de c'est qui le groupe majoritaire. On se rend compte que, dans le fond, être différent... c'est un peu normal.
Hein? Ouais, c'est une belle façon de le dire.
Quand on se met à creuser, on réalise que tout le monde a des spécificités, tu sais, mm-hmm. à différents niveaux. On a tous des différences. Il y en a que c'est visible, mais la plupart des différences sont invisibles. C'est dans nos histoires de vie, c'est dans notre parcours, nos choix, nos préférences. Donc exactement, on commence à réaliser que la différence est normale.
Que le groupe n'est pas homogène.
Le groupe n'est pas homogène. Donc, l'idée, ce n'est pas que tout le monde soit pareil. On est en train de changer un peu notre façon de concevoir, si on revient au développement collectif, plutôt qu'essayer de travailler très fort à ce que tout le monde intègre le groupe. On se dit, ben, pourquoi on n'essaye pas plutôt de modifier notre communauté, notre société, pour que tout le monde y trouve sa place, en fait, mm-hmm. peu importe les différences. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit bien et qu'évidemment, on ne se fasse pas de mal les uns aux autres. Là. Bon, mais dans la mesure où on est bien et en harmonie ensemble, nos différences, c'est pas un problème.
Mm-hmm.
Là, encore une fois, ça a l'air très banal dit comme ça à la radio, mais il y a tout un cheminement des valeurs qui évoluent là, par rapport à ça. Fait que Maintenant, quand on regarde différents problèmes sociaux, plutôt que de se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces gens-là changent pour rentrer dans la norme, c'est plus comment on pourrait... On essaie d'analyser c'est quoi, comment on fonctionne dans la collectivité, puis en quoi ça peut brimer ces gens-là. Donc, comment on pourrait modifier nos façons de faire pour que limiter les vulnérabilités des gens, les exclusions qu'on crée nous-mêmes dans
le fond. Les aider sans les changer, dans le fond. Là.
Voilà, les aider sans les changer.
Puis j'ai l'impression que ce discours-là, on l'a beaucoup dernièrement, beaucoup avec l'itinérance.
Oui.
On en parle énormément dans l'actualité. Oui. On le vit de plus en plus dans la région. Il y a eu la nuit des sans-abri il y a quelques semaines. Donc, je trouve que ça relie beaucoup, beaucoup cet enjeu-là qu'on a actuellement.
Absolument. C'était un des exemples que je voulais soulever. Fait que je suis contente que tu l'amènes. T'sais, l'itinérance, c'est un problème complexe, mais il y en a qui ont encore le réflexe. T'sais, je l'entends, puis peut-être que tu l'entends aussi. De se dire, ben voyons, il y a eu des campements, là, par exemple, à Maniwaki. Enlever ça de là et ces gens-là n'ont pas d'affaires là. C'est pas comme ça qu'on devrait vivre. C'est pas comme ça. C'est pas notre norme sociale. Oui, d'accord. Mais au-delà de ça, il y a une approche qui est beaucoup plus compréhensive d'essayer de voir mais comment on peut mettre en place des mesures dans notre communauté pour soutenir ces gens-là dans leur dans la marginalité qu'ils ont et leurs difficultés pour essayer, dans le fond, que les sortir de leur vulnérabilité, mais dans une approche, comme on dit, compréhensive, puis sans changer les gens du tout au tout non plus. On voit cette approche-là en itinérance. On la voit beaucoup aussi au niveau de la consommation des drogues. Hein. Ça fait souvent les manchettes ici au Québec, en Ontario, partout au Canada. Il y a comme toujours une espèce de débat. Est-ce qu'on essaie de lutter contre la consommation des drogues, qui est quand même marginale et qui peut blesser les gens, on s'entend? Ça peut être nocif. Ou est-ce qu'on y va plus par une approche de réduction des méfaits, puis dire, bon, ben les gens peuvent avoir des problématiques de consommation, mais comment on peut s'organiser collectivement pour que, malgré ces problématiques de consommation-là, on mette en place des mesures pour les aider à ce que ça soit le moins préjudiciable pour eux et leur environnement.
Ça puisse atténuer les problèmes.
Réduction des méfaits, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est subtil dans la nuance là, de comment on perçoit les problèmes sociaux, mais c'est une subtilité importante. Puis je trouvais ça bien de l'apporter ici au micro pour dire, quand vous pensez à une problématique sociale, que ce soit l'itinérance, la pauvreté autour de vous, toutes les différences, tu sais, beaucoup dans les débats de genre hein, aussi, on en parle souvent là, depuis quelques années, là, l'identité de genre, il y en a que ça vient ébranler leurs valeurs. Mais essayez de voir, est-ce que je suis en train d'essayer de changer la personne parce que je veux qu'elle devienne « normale » entre gros guillemets, donc qu'elle rentre dans un groupe majoritaire, ou est-ce que je pourrais pas plutôt essayer de voir comment les choses mises en place dans le groupe, dans la collectivité, dans la communauté, peuvent aider ou non cette personne-là, dans le fond, peu importe comment elle est.
Bon, dans le fond, la morale de l'histoire, c'est qu'on ne réussira pas à devenir tous un beau gros groupe homogène, puis c'est bien correct de même.
C'est bien correct de même, puis on peut juste essayer d'être heureux en s'acceptant comme on est, en fait.
Bon, ben merveilleux. Beau message, ça, aujourd'hui, Madeleine. Un grand merci, puis on se reparle dans deux semaines.
Merci à toi.